Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un fait divers qui a profondément choqué la France et qui implique des élèves de 3e. Le 8 mars, une adolescente de 14 ans, Alisha, a été tuée par deux de ses camarades de classe, âgés de 15 ans. Code Source fait le point sur cette affaire avec deux journalistes de l'agence du Val d'Oise du Parisien, Julie Olagnol et Anne Collin.
Après la sidération, l'enquête à Argenteuil où une collégienne est morte noyée lundi après une altercation avec deux camarades de classe.
Julie Olagnol, à quoi ressemble le lieu où a été tuée Alisha à Argenteuil?
Alors Alisha a été tuée au bord des quais de Seine et donc on est sous le pont de l'A15 qu'on appelle aussi le pont de Gennevilliers. Donc c'est un lieu qui est isolé, on y accède par un chemin escarpé et apparemment les jeunes y vont de temps en temps pour faire de la moto ou des barbecues.
Julie Olagnol, vous allez nous raconter cette affaire en repartant du début. D'abord, qui est Alisha ?
Alisha est une jeune fille âgée de 14 ans. Elle est en troisième. C'est une jolie jeune fille à la peau mate qui semble assez menue et elle porte des lunettes.
Après les vacances d'été 2020, à la rentrée de septembre, Alisha change d'établissement.
À la rentrée de septembre, elle entre au lycée Cognac-G. C'est un lycée privé professionnel, mais gratuit, ce qui est assez rare pour ce type d'établissement.
Dans ce lycée, Alisha se fait de nouveaux amis, notamment un garçon et une fille.
Alisha et ses deux agresseurs présumés se rencontrent à la rentrée de septembre. Ils sont dans la même classe, ils viennent d'établissements scolaires différents, ils ont des profils et des parcours différents. Ils se lient dans un premier temps d'amitié.
Et elle a une histoire amoureuse avec ce garçon.
Très brève relation amoureuse avec ce garçon, effectivement en début d'année.
Et ensuite, ce garçon va se mettre en couple avec l'autre jeune fille du trio.
Le garçon et la jeune fille vont développer une relation amoureuse qui va durer plus longtemps. Beaucoup de témoins nous ont dit que le garçon mis en cause était très amoureux, éperdument amoureux de sa nouvelle petite amie.
Mais Alisha et la jeune fille, elles aussi sont très proches, elles sont vraiment copines.
Selon le procureur, en effet, les deux jeunes filles restent amies jusqu'en fait au mois de février où la situation dégénère sérieusement.
Que se passe-t-il en février ?
Alors apparemment, le garçon vivait très mal le fait que les deux jeunes filles, Alisha donc, et son actuelle petite copine, restent proches malgré la situation. Il reprochait aussi à Alisha d'avoir apparemment mal parlé de son papa qui était décédé. Donc voilà, il y a une tension qui naît essentiellement entre le garçon et Alisha. Dans un premier temps, ils vont lui envoyer des messages de harcèlement. Ensuite, ils vont pirater son compte Snapchat et récupérer des photos privées d'Alisha en sous-vêtements. Ils vont les divulguer sur le groupe de la classe. Donc voilà, il y a cette situation de harcèlement qui se met en place.
Après la diffusion de ces photos intimes d'Alisha donc sur ce groupe internet de la classe, que se passe-t-il ?
Le garçon est temporairement exclu de son établissement, ce que sa petite copine vit mal, et donc Alisha et elle vont se battre dans les toilettes apparemment de leur lycée, ce qui va entraîner cette fois l'exclusion temporaire de la jeune fille.
Après cette bagarre, la jeune fille essaie de donner un rendez-vous à Alisha pendant le week-end du 6 et 7 mars.
À la demande du garçon, la jeune fille va fixer un rendez-vous à Alisha le samedi 6 mars. Mais Alisha refuse et le rendez-vous est finalement fixé au 8 mars. Le lundi 8 mars, Alisha doit se rendre au lycée vers 11h pour apporter un document administratif. Ensuite, elle a un cours à distance à 15h. Et entre-temps, donc, elle va au rendez-vous avec la jeune fille et elles se rendent ensemble sur les quais de Seine, sous le pont de la 15.
La mère du jeune homme le voit revenir à la maison avec sa petite copine qui avait donné rendez-vous à Alisha entre 16h et 17h, c'est ça ?
Le garçon et sa petite copine rentrent au domicile de la mère qui est pas très loin en fait des quais de Seine. La mère les voit assez agités dans un premier temps. Ils rentrent dans la chambre du jeune homme et ils en sortent avec des vêtements propres.
Que se passe-t-il ensuite ?
Ce qui est assez surprenant, c'est que le fils va confier à sa mère avoir frappé une jeune fille. Il explique qu'ensuite, elle est tombée dans l'eau de la Seine. Forcément, ça inquiète la mère. Et donc là, elle va avoir une réaction assez spontanée. C'est se rendre immédiatement sous le pont de la 15 pour voir si la jeune fille est toujours là, si elle est blessée et potentiellement lui porter secours. Malheureusement, quand elle arrive sur les lieux, elle trouve un gant ensanglanté appartenant à la petite amie de son fils avec une mèche de cheveux. Elle retourne à son domicile, elle constate que son fils et sa petite amie ont disparu. Donc très inquiète, elle va se rendre au commissariat pour faire quelque chose de très courageux, c'est-à-dire dénoncer son fils. Alors bien sûr, les policiers vont tout de suite se rendre sur les quais de Seine, il y aura la police fluviale, il va y avoir évidemment un renfort d'équipe de pompiers avec des plongeurs. Et ils retrouvent le corps malheureusement inerte de la jeune fille, immergée dans 1 mètre d'eau, à quelques mètres en contrebas d'un ponton.
Les deux jeunes sont arrêtés quelques heures plus tard dans la nuit.
On les retrouve chez un ami qui les hébergeait et qui n'était pas au courant de ce qui s'était passé auparavant.
Gélio Lagnol, dès le lendemain, vous allez devant le lycée professionnel où étaient scolarisés Alisha et ses deux agresseurs, donc le lycée Cognac-G d'Argenteuil. Que vous disent les élèves que vous rencontrez ?
Ils sont forcément choqués. Ils ont appris la nouvelle le matin même pour la plupart. Leurs enseignants ne sont pas trop rentrés dans le détail. Ils leur ont dit que c'était un jour de deuil, qu'il allait y avoir une minute de silence. Mais ils ont tout de suite... le mot est passé entre eux, notamment via les réseaux sociaux.
Ces élèves à qui vous parlez, vous sentez qu'ils prennent la mesure de ce qu'il s'est passé ?
Alors honnêtement, pas tous. Il y en a certains, les plus âgés, qui sont en larmes et qui ont beaucoup de recul. Il y en a même certains qui nous disent si on avait su qu'elle était harcelée, on l'aurait aidée. Ou au contraire, qui nous disent Alisha était venue nous voir, elle nous avait dit qu'elle était harcelée, mais on n'a rien fait. Mais il y en a d'autres, ceux qui ne sont pas dans sa classe ou qui ne la connaissaient pas, qui n'ont pas forcément conscience de la mesure de ce qui s'est passé.
Après ça, Julie Oulagnol, vous allez voir la famille d'Alisha chez elle à Argenteuil. Où vivait Alisha d'abord ?
Alisha habitait dans les Hauts d'Argenteuil, dans le quartier de la Butte aux Châtaigniers. C'est un lieu qui a une certaine distance de son établissement scolaire. C'est un petit quartier pavillonnaire.
Vous pouvez parler avec qui ?
Alors à ce moment-là, le père est au commissariat. Donc la mère est effondrée et elle envoie donc au portail le frère et le cousin d'Alisha pour nous parler.
Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Alors ils nous racontent la situation de harcèlement. Ils nous expliquent que Alisha avait reçu des menaces de mort de la part du garçon, de la part de la fille, ils nous évoquent la bagarre. Ils nous disent qu'ils sont tellement inquiets que le frère demandait même à sa sœur d'activer la géolocalisation sur son téléphone portable pour s'assurer qu'elle allait bien. Ils nous racontent aussi que le jour du drame, à partir de 13h, ils ont essayé de l'appeler à de nombreuses reprises. Ils sentaient que quelque chose de grave était arrivé.
Le même jour, la mère de l'un des suspects, le garçon, parle à BFM TV.
Alors la mère du suspect, alors qu'elle est donc à la police judiciaire de Cergy, se confie aux caméras de télévision et elle explique qu'elle aurait jamais pensé faire ça, c'est-à-dire avoir à dénoncer son fils. Et elle explique aussi que son fils était un petit peu sous l'emprise de sa nouvelle copine.
J'aurais jamais pensé dénoncer mon fils pour un truc comme ça. C'est un gros nounours, il est tout le temps sur son ordinateur, je sais pas, mais depuis le mois de septembre, depuis qu'il a rencontré sa copine, c'est plus le même.
Elle comprend pas comment il a pu faire une chose pareille et en même temps, elle exprime de l'empathie, bien sûr, pour la famille de la victime.
Je suis horrifiée pour la petite, ce qui lui est arrivé. Puis en même temps, je suis horrifiée pour mon fils, parce que je ne sais pas ce qu'il va devenir de lui.
On est maintenant en ligne avec l'une de vos consoeurs, Anne Collin. Anne Collin, vous vous rendez au lycée Cognac-G le mercredi pour interviewer la directrice de l'établissement. Elle est comment, d'abord, quand vous la rencontrez ?
Alors, elle est déjà très occupée, évidemment, puisque au-delà du drame, il faut aussi gérer le quotidien d'un établissement. Elle est très présente avec la cellule d'écoute qui est sur place depuis la veille. Et puis, elle est forcément émue.
L'émotion est immense. Elle est d'autant plus forte que dans notre établissement, élèves, enseignants et adultes, nous sommes tous très unis. Nous sommes tous extrêmement affectés face à ce drame.
quelles mesures elle a pris le mardi, juste après le drame?
Dès le mardi, arrive sur place une cellule psychologique d'écoute, disponible pour tous les personnels et pour tous les lycéens. Les cours ont été maintenus pour les élèves de l'établissement, sauf pour la classe de 3e B dans laquelle étaient scolarisés Alisha et ainsi que les deux accusés.
D'un mot, la directrice du lycée Cognac-G confirme qu'Alisha était une bonne élève.
Absolument, elle confirme le portrait qu'en effet par ses proches d'une jeune fille assidue, bonne élève, proche de ses professeurs, qui posait pas de soucis particuliers. Voilà, une bonne élève en effet.
Les deux agresseurs d'Alisha, est-ce qu'ils étaient connus pour être violents au sein de l'établissement?
La directrice nous explique que jusqu'aux derniers événements qui avaient mené à leur expulsion, non. Ils ont un profil de décrocheur en fait. L'équipe pédagogique essaye justement de travailler pour les récupérer, qu'ils sont pas toujours là, mais non. Pas connus pour des faits de violence.
Christine Cadard, la directrice, vous confirme que le garçon et la jeune fille devaient passer tous les deux en conseil de discipline le mardi de cette semaine, qu'ils avaient été exclus provisoirement. Pour elle, en résumé, l'établissement n'a pas sous-estimé cette affaire de harcèlement?
Voilà, les choses ont été prises au sérieux, et estime-t-il. Les parents ont été prévenus, les lettres recommandées étaient parties, ils étaient donc interdits d'être dans l'établissement. La directrice nous indique qu'elle avait conseillé à la famille d'Alisha porter plainte.
Mais à cette période, bien sûr, la directrice ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer ensuite.
Non, bien sûr que non. Elle dit que c'est l'incompréhension, en fait. Oui, il y avait en effet un différend entre les parties, mais que jamais, ils imaginaient une chose pareille.
Julie Oulagnol, le lendemain, le mercredi soir, Éric Corbeau, le procureur de la République de Pontoise, décrit une scène de guet-apens particulièrement atroce.
Éric Corbeau explique qu'en fait le couple échangeait des SMS depuis plusieurs semaines pour fixer un rendez-vous à la jeune fille. Donc à la demande du garçon, la fille prend rendez-vous avec Alisha, comme on sait, le lundi. Elle l'attire ensuite sur les quais de Seine où le garçon est dissimulé derrière un pilier du pont. Soudainement il surgit, il frappe Alisha et lui assène plusieurs coups de poing.
Après avoir discuté quelques minutes, le jeune homme qui était resté dissimulé se serait approché de la victime et lui aurait donné par surprise des coups au visage, lui aurait tiré les cheveux, puis lui aurait fait une balayette la faisant tomber au sol.
Au sol, il lui met encore des coups de pied. Ensuite, ensemble, le couple a jeté à l'eau en contrebas du ponton la jeune fille qui était encore vivante. Il précise qu'elle avait encore les yeux ouverts et qu'elle gémissait.
Que révèle l'autopsie du corps d'Alisha?
L'autopsie du corps d'Alisha révèle que la jeune fille est morte par noyade. Cela prouve bien que c'est bien le fait que le couple l'ait poussée à l'eau qui a entraîné son décès.
Est-ce qu'on en sait plus pendant cette conférence de presse sur ce qu'ont fait ensuite les deux jeunes après avoir jeté Alisha en contrebas de ce ponton dans la Seine?
On apprend qu'ils sont partis dîner, prendre à manger à emporter à Paris avant de retourner chez leur ami qui les a hébergés pour la nuit.
Les deux jeunes de 15 ans sont placés en détention provisoire. Ils sont mis en examen pour assassinat, et ça, c'est important.
Et ça, c'est vraiment particulier dans cette affaire parce que ce sont des adolescents, ils ont seulement 15 ans. D'après l'accusation, ils avaient organisé ce rendez-vous dans le but de ne laisser aucune chance à Alisha.
Quelle peine ils encourent?
Alors, étant donné qu'ils sont mineurs, ils encourent pour assassinat 20 ans de prison, contrairement à un adulte qui pourrait avoir la perpétuité.
Julie Oulagnol, le lendemain, l'avocat du jeune homme, maître Franck Berton, un ténor du barreau comme on dit, parle aux journalistes. Que dit-il?
Alors l'avocat du jeune homme explique que c'était un garçon timide. C'est d'ailleurs un petit peu ce que nous avaient dit les proches qu'on a rencontrés dans le quartier donc du garçon. C'était un garçon geek qui était tout le temps dans les ordinateurs. Des voisins nous ont dit également qu'il était très frêle, qu'il baissait les yeux quand il croisait quelqu'un dans la rue, qu'on aurait pu lui casser la main quand on lui serrait. Donc ça correspond pas du tout à l'image de l'assassin en fait.
Et de son côté, l'avocate de la jeune fille accusée refuse de s'exprimer.
L'avocate de la jeune accusée refuse de s'exprimer. Elle respecte la volonté de la famille.
Anne Collin, le dimanche 14 mars, une marche blanche est organisée à Argenteuil en mémoire d'Alisha. Vous êtes sur place pour Le Parisien et le point de rendez-vous, c'est le lycée des trois jeunes.
Oui, devant le lycée Cognac-Jay, bien avant le départ de la marche qui était prévu à 14h. J'arrive en avance évidemment et il y a déjà du monde. Beaucoup de fleurs ont été déposées devant le lycée. Beaucoup en ont également dans les bras, des fleurs blanches, des ballons blancs également. Et beaucoup de participants portent un t-shirt blanc avec la photo d'Alisha devant. Derrière les mots « Je suis Alisha » et « Non au harcèlement » et « Justice pour Alisha ».
Racontez-nous cette marche.
L'émotion est palpable. La foule s'intensifie au fur et à mesure. On parle d'au moins 2000, 3000 personnes qui sont présentes. La famille d'Alisha en tête, derrière une banderole « Hommage pour Alisha ». Et on avance doucement sur un parcours qui n'est pas très long finalement, mais qui mène jusqu'au parc des Berges, où a été installée une estrade et un micro pour qu'il puisse y avoir des prises de parole.
Et la mère d'Alisha prend la parole.
Elle dit sa douleur, le fait que sa fille, évidemment, lui manque.
Alisha me manque !
Elle dit qu'elle attend sa fille encore tous les jours, qu'elle comprend pas, qu'on lui a arraché une partie d'elle-même.
Je me sens seule, on m'a arraché une partie de moi.
Julie Oulagnol, quelques jours avant la marche blanche, vous avez publié un papier sur la jeune fille mise en examen pour l'assassinat d'Alisha. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'en prenait à d'autres élèves.
On s'est rendu devant l'ancien collège de la jeune fille, Jean Villard, à Herblay. Et là, mon confrère Thibaut Chaffaut rencontre deux anciennes camarades qui nous ont confié qu'elle avait déjà publié des photos de deux filles sur Snapchat en ajoutant des tarifs et en les traitant de prostituées.
Comment est-ce qu'elles ont compris ça, ces deux jeunes filles?
Alors, elles ont forcément très mal vécu la chose. Elles n'ont absolument pas compris pourquoi ça avait été fait, étant donné qu'elles ne la connaissaient même pas, qu'elles ne lui avaient rien fait, qu'elles n'étaient même pas dans la même classe. Visiblement, ça l'amusait. Et donc, elles nous disent que la jeune fille devait être perturbée, qu'elle avait des problèmes dans sa tête.
Merci à Julie Oulagnol et Anne Collin. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Marion Botorel, Thibault Lambert et Mathias Pengili. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application préférée.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.